les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli. Bonjour à tous. Pour que 2025 soit une belle année, ni trop pessimiste ni trop béate, je vous propose de la débuter avec une nouvelle réflexion philosophique en revenant sur la question de l'IA que j'ai traitée dans une autre chronique. Certains d'entre vous ont réagi en maudissant cette innovation et je me suis dit qu'il y avait un petit malentendu. Je ne pense pas que ce soit l'IA le problème, mais notre relation à cette nouveauté. Est-elle réellement un progrès, une amélioration dans nos vies quotidiennes? Sans doute oui, par certains aspects, mais l'affaire, comme toutes celles qui intéressent la philosophie, est plus subtile que cela. Partons d'une figure célèbre, Elon Musk, qui a fait l'actualité sur plusieurs plans. Soutien bruyant à Donald Trump, leader dans l'aérospatiale avec sa fusée Starship, mais aussi dans la voiture électrique avec Tesla. Il a présenté au public, il y a un an, son robot humanoïde baptisé Optimus. Cet androïde, c'est la promesse d'un futur où nous serons aidés au quotidien par des robots. Mais est-ce que ces innovations représentent vraiment un progrès? Il ne sera pas question de faire ici l'éloge ou le procès d'Elon Musk, ce personnage si clivant qui occupe nos esprits pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Nous allons plutôt suivre l'enquête du philosophe français Thierry Ménissier dans son livre « Innovation » paru en 2021. Il tâche d'y expliquer pourquoi la relation entre innovation et progrès n'est pas si évidente. Une innovation, c'est, si on prend la définition basique, quelque chose de nouveau, produit par un créateur qui signe là une réalisation unique. Mais pas uniquement. L'innovation doit aller au-delà de la simple invention. Ça entraîne souvent une révolution dans les comportements à plusieurs niveaux, individuels, sociaux et économiques. C'est ce que nous avions vu dans le cinéma avec le développement du numérique et de l'IA. Ce qui nous fait dire que ce n'est peut-être pas toujours un progrès pour l'humanité, c'est-à-dire une évolution vers un mieux. En effet, plusieurs éléments empêchent définitivement de confondre les innovations technologiques avec le progrès. Le premier est la cassure entre une société de très haute technologie et l'usage que le Kidam fait de ses outils ultra perfectionnés. Comparons. Il faut un long apprentissage pour maîtriser une sarbacane en Amazonie, dans des cultures que certains osent appeler primitives. Alors que quelques secondes suffisent pour apprendre à scroller et transformer son cerveau en fromage blanc grâce à nos écrans.
C'est une excellente idée, ça ne me dérange pas du tout. Sophie, Jonathan, les enfants, venez dire bonjour.
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 Bonjour à tous et bienvenue au Code Dorothée pour un
Il dit bonjour à la télé.
Jean-Pierre, d'où vient Mimi? Il n'y a pas de télévision.
Peut-on vraiment parler de progrès lorsqu'il y a une telle rupture entre des ingénieurs hyper spécialisés et des consommateurs qui n'ont aucun recul sur leurs usages, sans parler de leur totale ignorance dans le domaine de la fabrication? D'ailleurs, ces consommateurs n'aiment pas l'innovation. C'est le deuxième élément. On assiste plus à une fascination pour le permanent et la tradition que pour la nouveauté incessante. Voyez à quel point la publicité pour des objets de consommation innovants, par exemple, se base sur des images et des références archaïques, rétrogrades, simplistes du type « la femme qui fait la lessive pendant que l'homme se repose sur son canapé ».
Il y a un nouvel homme. Bah oui, elle est con. L'homme, ça lave la tache qui est cachée dans le nœud torchon. Mais il est bien, hein, le torchon, il est propre après. Et aussi propre qu'avec l'ancien homme sans faire le nœud. C'est plus long, faut faire le nœud.
Ces techniques de marketing montrent que l'innovation, c'est-à-dire le nouveau, fait peur et que la société résiste. Non pas parce que nous sommes des Gaulois réfractaires, le phénomène est mondial, mais parce que le traditionnel rassure. Nos objets du quotidien, même s'ils sont hyper innovants, doivent apparaître comme les gardiens de nos repères si on veut que nous les achetions. Quel paradoxe! D'ailleurs, pourquoi aurait-on besoin toujours de nouveaux objets, de nouvelles technologies? Est-ce que, comme le prédisaient les philosophes des Lumières, ce serait pour un progrès social? Mieux éduquer, améliorer la médecine, améliorer les conditions de vie? Nous pouvons en douter. Pour reprendre le vocabulaire du philosophe autrichien Friedrich Hayek, l'innovation suit plutôt une logique catalaxique. La société libérale capitaliste nous entraîne vers toujours plus d'innovation, car elle trouve son équilibre que dans le mouvement. Bien entendu, ça n'a pas produit que des catastrophes. Nous aurions du mal à revenir sur certaines innovations. Pour ne prendre que le cas du plastique, j'ai souvent été tenté de signer une pétition pour son abolition. Mais que ce soit mon stylo Bic ou mon clavier d'ordinateur, je suis obligé de concéder que cette matière polluante et envahissante est bien pratique. Et je suis persuadé que la logique commerciale me poussera à adopter d'autres outils ou d'autres matériaux plus performants dans les années à venir. C'est comme si nous étions entraînés dans un tourbillon sans fin et sans espoir de retour en arrière. Car, même si ces innovations ne profitent qu'à un petit nombre d'individus sur Terre, je sais qu'une destruction de tous ces apports industriels me ramènerait à une vie frugale, ennuyeuse, limitée, celle de mes ancêtres paysans ou ouvriers. Certains peuvent surjouer la nostalgie de cette vie d'antan qui leur paraît plus authentique et moins destructrice pour l'environnement. Mais je peux aussi, en toute rationalité, préférer une vie de feu d'artifice, où je jouirais de moyens modernes, tels mon smartphone, ma voiture, une médecine robotisée de moins en moins invasive, quitte à polluer ma planète de manière irréversible. La catastrophe est pour les générations futures. Pourquoi devrais-je me sacrifier pour des individus qui ne sont même pas encore nés? Telle est la logique de l'innovation. À la fois répondre aux besoins du marché, qui implique une concurrence entre entreprises dont le carburant est la nouveauté, mais aussi les appétits des consommateurs qui trouvent leur compte dans ces nouveautés. Nous vivons dans un monde où les nouveaux héros sont des entrepreneurs qui ont développé une storytelling très sophistiquée autour de leur prétendu génie. Nous sommes abreuvés de ces récits d'individus inventifs à souhait, dont la personnalité aurait été déterminante pour l'avancée des innovations. Nous avons en tête les célèbres conférences de presse de Steve Jobs, dirigeant historique de Apple, ou les biographies d'Elon Musk. Ils se veulent les héros de la modernité, comme Henry Ford, Louis Renault ou André Citroën se crurent eux, ceux du développement de l'automobile. Ils adorèrent considérer qu'ils étaient les hommes providentiels, eux sans qui la société n'aurait pas pu progresser. Mais à bien y regarder, l'affaire est un peu plus complexe. Si le processus de création se trouve toujours cristallisé, à un moment donné, le rôle d'un leader charismatique est souvent de suivre et organiser les innovations, car il a la chance d'être au bon endroit, au bon moment. Mais surtout, l'innovation ne surgit jamais de nulle part. Elle est souvent que l'agrégat d'inventions préexistantes. Le philosophe français Michel Serres disait sur l'automobile en 1992 « Une voiture est un agrégat disparate. Tel organe fut inventé au début du siècle, l'autre il y a 10 ans. Et le cycle de Carnot, principe de thermodynamique, a presque 200 ans, sans compter que la roue remonte au néolithique. L'ensemble n'est contemporain que par le montage, le dessin, l'habillement, parfois seulement par la vanité de la publicité. Donc, tous ces industriels de l'automobile n'ont fait qu'accompagner et organiser la mise en place de solutions qui n'étaient pas toutes nouvelles, innovées. Ce mot peut être galvaudé au nom d'une mystification. Les hommes créent certes, mais n'innovent pas tant, pas si souvent. Et ce qu'ils l'annoncent, c'est qu'ils ont quelque chose à vendre. Le commerce est facteur de paix, me direz-vous. Si seulement. Loin d'arriver à un monde meilleur, à une humanité unie et plus heureuse, les innovations de notre siècle semblent reproduire les oppositions, voire les conflits entre les nations. Si nous revenons au monde du numérique, et plus particulièrement au développement du web, à ses origines, pas si lointaines, il y avait une certaine utopie vers un monde libre, où les connaissances seraient diffusées pour que tous apprennent. Les premiers acteurs étaient pour le free, c'est-à-dire pour la gratuité et l'universalité. Aujourd'hui, ce monde est dominé par les GAFAM américains, parfois bras armés de la NSA, l'agence de surveillance états-unienne. En face d'eux se trouvent les BATX chinois. Et le réseau social TikTok est soupçonné régulièrement non seulement de rendre ses utilisateurs addicts d'un plaisir immédiat sans cesse renouvelé, mais aussi d'espionnage pour le compte de l'État chinois. Nous retrouvons à travers ces outils, en dehors de la modification profonde des comportements qu'ils ont engendrés, des affrontements dignes de la guerre de 30 ans au XVIIIe siècle. Où est le progrès ? Cette histoire n'est-elle pas qu'une immense répétition de l'histoire avec de nouveaux moyens ?
La plateforme TikTok bannie de l'enceinte de la Commission européenne. L'institution l'annonce ce jeudi et invite l'ensemble de son personnel à désinstaller l'application au plus tard le 15 mars. L'objectif, protéger les données de l'exécutif européen et renforcer sa cybersécurité. L'administration américaine a déjà interdit TikTok sur les appareils du gouvernement fédéral et certains législateurs tentent de l'interdire d'opérer aux États-Unis.
Donc méfions-nous, en regardant avec nos yeux d'enfant émerveillés le robot humanoïde de Tesla. Est-ce entièrement nouveau ? Est-ce une réelle innovation ? Est-ce surtout vraiment un progrès ?
La complainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux, et nous serons heureux.
Vous pouvez retrouver cette chronique et quelques-unes supplémentaires dans le recueil édité sous le titre « Chronique par Mont et par Vaux » disponible dans toutes les bonnes librairies. Un nouveau volume de ces chroniques est prévu pour 2025. Mais en attendant, n'oubliez pas que CRPH peut accueillir ces chroniques, c'est parce que c'est une radio associative non commerciale qui vit notamment grâce à des subventions publiques et aux nombreux bénévoles. La menace de voir diminuer ses subventions de l'expression radiophonique s'éloigne, mais il faut rester vigilant, notamment à travers les arbitrages du budget du nouveau gouvernement. Je remercie RPH Sud et Radio Pays d'Hérault pour rendre possible ces petits moments de philosophie, et plus particulièrement Solène à la prise de son et au montage. Vous pouvez lire aussi ses chroniques dans CELMAG, revue gratuite, éditée à l'ODEV et disponible en ligne. Mais en attendant, je laisse le dernier mot à Jacques Chilin.